de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bonsoir et bienvenue à tous. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Vous êtes avec moi, Audrey. Chers amis, nous allons vous présenter un certain nombre de programmes comme le journal, les commentaires et d'autres infos. Comme l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Mon cher auditeur, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Chers auditrices et auditeurs, bonsoir. Voici la voix de l'Indonésie présente le journal d'aujourd'hui avec Maudry. Il y a quelques événements à informer, entre autres. Vol supplémentaire contribue à augmenter les visites touristiques. Ministre des Affaires maritimes et de la pêche de la République d'Indonésie vise des exportations de produits de la pêche de 7,2 milliards de dollars américains. Intérêt des investisseurs du Moyen-Orient pour l'Indonésie était toujours élevé. Indonésie attire toujours les investisseurs à Dubaï. Pêche mesurable augmente les exportations. Garde électorale souligne les violations potentielles de la neutralité à l'étranger. NIU, États-Unis, souhaite construire un campus de troisième cycle de l'IKN. Bon, chers auditeurs, voici les nouvelles en complet. Le ministre indonésien du tourisme et de l'économie créative, Sandiaga Uno, est optimiste quant à la possibilité d'atteindre l'objectif de 14,3 millions de visites touristiques étrangères en 2024. Cela a été transmis par Sandiaga Uno lors d'une conférence de presse de Jakarta mercredi 10 janvier 2024. Même si il se montre optimiste, Sandiaga Uno se méfie du nombre limité de vols et de la disponibilité limitée des sièges. Il est reconnaissant qu'en janvier, il y ait eu des vols supplémentaires de plusieurs compagnies aériennes telles que Qatar Airways vers Kuala Namu, Medan, Sumatra Nord et Juneyao Airlines vers Bali.
Dan bulan Januari ini tentunya kita harus bersyukur penambahan penerbangan.
En janvier, bien sûr, nous devons être reconnaissants. Nous réaliserons des vols supplémentaires en provenance du Moyen-Orient, notamment du Qatar à Kuala Namu le 15 janvier, ainsi que des vols vers Bali depuis la Chine, Juneyao. Sandiaga Uno a expliqué plus en détail. Juneyao Airlines volera à la mi-janvier 2024. Puis, en février, il y aura également des vols supplémentaires pendant un mois entier en utilisant le Boeing 787. Le ministre indonésien des Affaires maritimes et de la pêche, Sakti Wahyu Trenggono, vise des exportations nationales de produits de la pêche de 7,2 milliards de dollars américains en 2024. Trangono, dans les perspectives et le programme prioritaire pour le secteur maritime et de la pêche. À Jakarta, mercredi 10 janvier, il est convaincu que cet objectif sera atteint grâce à un programme de pêche mesurable élaboré dans le règlement gouvernemental numéro 11 de 2023. La pêche nationale sera de plus en plus bien surveillée car elle se concentrera sur la capture de certains poissons conformes à la demande du marché ou des besoins. À cette occasion, Trangono a également visé la production de la pêche en 2024 pour atteindre 30,85 millions de tonnes et une croissance du produit intérieur brut de la pêche de 5 à 6%. Il a déclaré que cette année, le ministère des Affaires maritimes et de la pêche a reçu un budget de 7,1 billion de roupies avec une proportion de dépenses opérationnelles de 3 000 milliards de roupies et de dépenses non opérationnelles de 4 000 milliards de roupies. Le ministre du Tourisme et de l'Économie créative, Sandiaga Salahuddin Uno, a déclaré que l'intérêt des hommes d'affaires du Moyen-Orient à investir en Indonésie est toujours très élevé, y compris dans le secteur du tourisme. C'est ce qu'a déclaré Sandiaga Uno à propos de sa visite à Dubaï, aux Émirats arabes unis et à Jeddah, en Arabie saoudite. Il y a quelque temps, où il a offert des opportunités d'investissement dans le secteur du tourisme et de l'économie créative. Dans une note hebdomadaire avec Sandy Uno à Jakarta mercredi, le ministre du Tourisme et de l'Économie créative a déclaré que l'Indonésie offre des opportunités d'investissement dans plus de 10 zones économiques spéciales. Dans le secteur du tourisme et de la création, 5 destinations touristiques super prioritaires, les ZES, proposés comprennent la ZES de Mandalika dans le centre de Lombok, la ZES de Tanjung Kelayang à Belitung, la ZES de Likupang au nord de Minahasa, la ZES de Tanjung Lesung à Pandeglang, la ZES de Nongsa à Batam, la zone économique spéciale au ZES du Lido à Bogor, la ZES de Singhasari à Malang et la zone économique spéciale ou ZES de Morotai dans les îles Morotai. Offre d'investissement de l'Indonésie dans 5 destinations super prioritaires, dont Borobudur, le lac Toba, Likupang, Mandalika et Labuan Bajo. En outre, Sandy a révélé que les investisseurs de Dubaï aux Émirats arabes unis commencent désormais à cibler leurs investissements dans le secteur du tourisme et de la création en dehors de Dubaï, en tant que plaque tournante stratégique. Dubaï examinerait le potentiel d'investissement en Indonésie. Le ministre du Tourisme et de l'Économie créative, Sandiaga Uno, a rencontré des investisseurs et des entrepreneurs de Dubaï lors de sa visite de travail aux Émirats arabes unis, les 4 et 5 janvier 2023, dans The Weekly Brief with Sandy Uno, mercredi 10 janvier 2024 à Jakarta, Sandy a déclaré « L'Indonésie attire toujours les investisseurs de Dubaï qui souhaitent investir leurs capitaux dans divers secteurs, notamment le tourisme et l'économie créative, car l'Indonésie est considérée comme ayant une bonne économie et les commodités fournies par le gouvernement jusqu'à présent. » Lors de sa rencontre avec des investisseurs de Dubaï, Sandy Uno a également proposé le programme Golden Visa et les zones économiques spéciales pour investir dans le secteur du tourisme et de l'économie créative.
Berparagraf juga menawarkan program Golden Visa.
Le ministère du Tourisme et de l'Économie créative propose également un programme Golden Visa ainsi que plusieurs zones économiques spéciales qui ont été créées pour répondre aux intérêts des investissements dans les secteurs du tourisme et de l'économie créative. Sandiuno a en outre déclaré que les investisseurs de Dubaï sont également intéressés par le développement de projets immobiliers en Indonésie, notamment à IKN. Selon Sandy, le gouvernement doit agir ensemble et collaborer pour développer tout le potentiel d'investissement. Le ministre des Affaires maritimes et de la pêche, Sakti Wahyu Trangono, a déclaré que la politique de pêche mesurable est basée sur des quotas vise à augmenter les exportations tout en maintenant la durabilité de l'écosystème marin. Trangono, lors du séminaire sur les stratégies de protection de la région de l'île de Java à travers la construction d'une digue géante à Jakarta mercredi, a déclaré que la pêche en Indonésie était considérée comme trop libre, sans aucune réglementation des quotas, de sorte que d'autres pays étaient réticents à importer du poisson d'Indonésie. Par conséquent, le gouvernement a publié le règlement gouvernemental numéro 11 de 2023 qui réglemente, entre autres, les zones de pêche, le nombre de poissons capturés et le nombre de navires pouvant pêcher. En outre, Trangono a déclaré que le potentiel des ressources marines à l'échelle mondiale est très important et qu'une stratégie est donc nécessaire pour devenir l'un des principaux acteurs. Il a déclaré que le marché mondial des fruits de mer a atteint 730 milliards de dollars américains par an. En 2022, elle vaudra 338 milliards de dollars américains. C'est pour cette raison que le ministère des Affaires maritimes et de la pêche encourage l'exploitation des ressources non seulement sur terre, mais aussi à commencer à travailler dans le secteur maritime à base d'océan, compte tenu de l'énorme potentiel économique. En tant que pays maritime, la production halieutique de l'Indonésie a été enregistrée à 2,3 millions de tonnes avec une valeur de production halieutique atteignant 45 000 milliards. L'initiateur de l'Association de surveillance des élections générales de la République d'Indonésie, Wahyu Susilo, a souligné le potentiel de violation de la neutralité lors de la tenue des élections de 2024 à l'étranger, considérant que la majorité des ambassadeurs et chefs de représentants sont issus de partis politiques ou des bénévoles. Wahyu, lors de sa participation à la discussion hebdomadaire sur le Jaga Pemilu à Jakarta, a déclaré mercredi que le rôle d'un ambassadeur ou d'un représentant du chef de l'État était très crucial pour maintenir la neutralité des élections générales. Outre le poste d'ambassadeur, le rôle d'attaché de défense est très fort, car il est directement impliqué dans la sécurité et fait partie du bureau électoral. Dans ces conditions, Wahyu estime nécessaire de disposer d'un bureau électoral spécial placé sous le commandement du ministère des Affaires étrangères, chargé de superviser le déroulement des élections à l'étranger. Selon Wahyu, en 2004, 2009 et 2014, il existait un bureau électoral géré par le ministère des Affaires étrangères, ce qui était très utile pour organiser des élections à l'étranger, assurer la distribution, etc. Wahyu, qui est également directeur exécutif de Migrant Care, a recommandé au gouvernement que les organisateurs d'élections à l'étranger soient permanents. L'autorité capitale de Nusantara au IKN a révélé que la Northern Illinois University, NIU, aux États-Unis était intéressée par la construction d'un campus de troisième cycle à l'IKN. Le chef de l'IKN, Bambang Susantono, a déclaré que le développement de la capitale Nusantara IKN faisait partie de l'expérience indonésienne. Bambang à Jakarta, mercredi 10 janvier, a déclaré que le développement de l'archipel en tant que ville forestière durable conforme à la campagne mondiale sur les objectifs de développement durable, le changement climatique et la biodiversité est un laboratoire vivant pour le monde. Le chef de l'autorité capitale de Nusantara, Bambang Susantono, a discuté avec la présidente de la Northern Illinois University, NIU, Lisa C. Freeman, de l'intérêt de la NIU à participer à la fourniture d'un enseignement de niveau international dans l'IKN Nusantara. La présidente de NIU des États-Unis, Lisa C. Freeman, a exprimé le désir de NIU de participer au développement de l'IKN. NIU est proche de la région de l'Asie du Sud-Est avec la création du Centre d'études sur l'Asie du Sud-Est depuis 1963. Bon, chers auditeurs, c'est tout. Les nouvelles d'aujourd'hui. Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour l'émission de commentaires d'aujourd'hui intitulée « Élections taïwanaises de 2024 » avec Maudry. Ce jeudi, demain le 13 janvier 2024, Taïwan élira un nouveau président. Les candidats en lice sont Lai Ching-te du Parti démocratique progressiste, Wu Yu-i du Parti Kuomintang, Ko Wen-chien du Parti populaire de Taïwan. Des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées pour un rassemblement massif du Super Dimanche, organisé par les trois candidats à la présidentielle le dernier week-end avant les élections du 13 janvier. Dans ces activités de campagne, les candidats à la présidentielle cités par VOA Indonesia, 10 janvier, ont présenté des visions et des plans pour différentes approches concernant les relations futures de Taïwan avec la Chine. Lai Ching-te, vice-président de Taïwan du Parti démocratique progressiste de Taïwan, actuellement le plus favorisé, a qualifié cette élection de choix entre la démocratie et l'autocratie. et a demandé à tous les citoyens de défendre ensemble la démocratie. Lai Ching-te a déclaré qu'il maintiendrait le status quo, c'est-à-dire qu'il continuerait à faire pression pour l'indépendance de Taïwan. Il a déclaré qu'il restait ouvert à la Chine sous réserve des conditions préalables d'égalité et de dignité. Pendant ce temps, le candidat de l'opposition à la présidence Wu Yu-yi du parti Kuomintang souhaite que le dialogue avec la Chine réduise les tensions. Wu a fait valoir que l'amélioration des liens économiques et l'ouverture du dialogue avec la Chine constituent le meilleur moyen de maintenir la paix. Malgré cela, il a rejeté l'idée d'une indépendance de Taïwan avec un modèle, un pays deux systèmes comme Hong Kong suggéré par le Parti communiste chinois. On dit que sa position a laissé certains électeurs incertains quant à sa position sur la question chinoise. Kuo Wen-che, candidat présidentiel du Parti du peuple de Taïwan, TPP, a déclaré que son parti proposait une voie médiane entre le Parti démocratique progressiste et Parti Kuomintang. Sur la question chinoise, la vision et les projets concernant l'approche des relations de Taïwan avec la Chine préoccupent les candidats à la présidentielle des trois partis, montrant que le rôle des relations de Taïwan avec la Chine est très important dans la détermination des résultats finaux des élections de 2024. Si les relations avec la Chine ont une influence significative sur les élections de demain à Taïwan, les candidats présidentiels du Parti démocratique progressiste et du Parti Kuomintang obtiendront un avantage électoral significatif. Cependant, cette fois-ci, lors des élections à Taïwan, il n'est pas impossible qu'il y ait des surprises. L'émergence de Kuo Wen-che et du Parti populaire de Taïwan lors de ces élections a apporté une nouvelle couleur à l'arène politique de Taïwan. Sa présence remet en question la domination traditionnelle des deux partis et offre quelque chose de nouveau à ceux qui veulent du changement. Kuo Wen-che et son parti représentent également une vague de sentiments anti-établissement et soulignent le désir croissant d'un système politique plus inclusif et plus réactif à Taïwan. Quel que soit le résultat, le peuple taïwanais espère certainement que ces élections donneront naissance à un dirigeant capable d'emmener Taïwan dans une direction meilleure, plus sûre, plus pacifique et plus prospère. Bon chargeur d'art, c'est tout. Le commentaire.
Bonjour, bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici l'histoire d'aujourd'hui, le 12 janvier. Chaque 12 janvier, l'Indonésie commémore la Journée nationale de la sécurité et de la santé au travail. Cette journée est basée sur la loi numéro 1 de 1970 concernant la sécurité du travail, adoptée le 12 janvier 1970. En 1990, cette date a été désignée la Journée nationale de la sécurité et de la santé au travail sur la décision du ministre de la main d'œuvre de l'époque, M. Cosmas Batubara. La création de la Journée de la sécurité et de la santé au travail est un effort visant à promouvoir la sécurité et la santé au travail à tous les niveaux de la société afin de réduire au minimum les accidents du travail. Actuellement, la Journée nationale de la sécurité et de la santé au travail est généralement célébrée tout au long du mois jusqu'au 12 février, qui est célébré comme le mois de la sécurité et de la santé au travail. Le 12 janvier 2004, le RMS Queen Mary 2 navigue pour la première fois. Le RMS Queen Mary 2 est un paquebot britannique qui assure régulièrement la route de Southampton en Angleterre à New York aux États-Unis. La longueur du RMS Queen Mary 2 est d'environ 345 mètres et pèse près de 150 tonnes brutes, ce qui en fait le navire à passagers le plus long et le plus grand au monde lors de sa construction au début des années 2000. Le Queen Mary 2 a effectué son voyage inaugural le 2 janvier 2004 à Fort Lauderdale aux États-Unis. Ce navire remplace le RMS Queen Elizabeth II, un navire océanique qui fonctionne désormais comme un hôtel flottant à Dubaï aux Émirats Arabes Unis. Ainsi, il est le seul navire océanique au monde encore en actif aujourd'hui. Le 12 janvier 2010, un tremblement de terre a secoué Haïti. Un tremblement de terre d'une magnitude de 7,0 a secoué Haïti le 12 janvier 2010. L'épicentre du séisme était situé à 25 km à l'ouest de Port-au-Prince, la capitale du pays sur l'île des Caraïbes. Le tremblement de terre a été suivi d'une cinquantaine de répliques. Le gouvernement haïtien estime qu'environ 316 000 personnes sont mortes à la suite du séisme, tandis qu'environ 250 000 maisons et 30 000 bâtiments commerciaux ont été gravement endommagés ou se sont effondrés. Le Palais national d'Haïti, résidence officielle du président d'Haïti, au Port-au-Prince, a été si gravement endommagé qu'il a dû être démoli en 2012. Le tremblement de terre du 2 janvier 2010 a également provoqué des glissements de terrain dans les zones montagneuses d'Haïti. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Datangnya pagi,
yeah. Oh senangnya berlari ke tepi pantai,
mendaki ke atas gunung.
Ku paham benar si bintang.
Aku tak percaya astrologi.
Oh asiknya menyelam di
di ketinggian.
Kita
selalu berbeda,
tak sama,
tak masalah,
tapi
kan sadari
seribu alasan kita akan berbeda, berjuta alasan untuk saling mengerti. Anugerah terindah
saling
menikmati.
hati, yeah. Anugerah terindah dari Tuhan berjalan beriringan. Terciptalah harmoni, membuat segalanya lebih indah.
Oh, tak ada yang sama.
Berjuta alasan untuk saling mengerti.
Anugerah terindah dari Tuhan berjalan beriringan.
Terciptalah harmoni, membuat segalanya seribu alasan kita akan berbeda. Berjuta alasan untuk saling mengerti.
Chers amis, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était belle la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc le programme Mon Indonésie. Bonne écoute.
C'est le retour pour la suivante, voici donc Mon Indonésie, et pour le titre... Berin développe de nouvelles variétés sorgho sucré pour le bioéthanol. L'Agence nationale de recherche et d'innovation Berin développe une nouvelle variété sorgho sucré à haute teneur en sucre pour fabriquer du bioéthanol comme carburant à faibles émissions. Le chef du centre de recherche sur les cultures vivrières de Berin, Yudhistira Nugraha, a déclaré lundi à Jakarta que sa partie cible les nouvelles variétés ayant une teneur en sauce ou briques supérieure à 20%. Yudhistira a déclaré qu'il existe actuellement deux variétés de sorgho sur le marché, à savoir Super 1 et Bioguma, qui ont une valeur briques d'environ 15 à 18%. Les deux anciennes variétés appartenant au ministère de l'Agriculture ont de petites tiges. Elles ont donc tendance à s'effondrer. Tandis que les nouvelles variétés actuellement développées ont un degré bix élevé allant jusqu'à 20% de grandes tiges et sont résistantes aux ravageurs de la pourriture des nervures médianes. Le projet de recherche sur une nouvelle variété de sorgho actuellement développée par Berin se déroule à Gorontalo et Maros. Il existe environ 50 souches d'essais préliminaires de rendement du sorgho sucré. Sur les 50 souches, plusieurs souches ont des niveaux de sucre allant jusqu'à 20% et 10 souches ont été sélectionnées pour l'évaluation des résultats de tests de données supplémentaires. Berin collabore avec des entreprises privées dans le projet de développement de nouvelles variétés de sorgho sucré. L'entreprise privée collabore avec le Japon pour construire une usine de bioéthanol à Gorontalo. La principale récolte de la nouvelle variété de sorgho sucré sera la sève et la biomasse pour un carburant alternatif à faibles émissions de carbone. C'est le top, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta. Voici la voix de l'Indonésie, la diffusion en français.
cinta yang sesungguhnya. Kau yang selalu tersenyum di hari-hariku, di setiap hembus nafasku. Tapi kau tinggalkan aku, kau pergi dariku tanpa alasan yang jelas. Kini ku sadar cinta ini tak selamanya indah, tak selamanya bahagia. Ku yakin suatu saat sesungguhnya. Kau yang selalu tersenyum di hari-hariku, di setiap hembus nafasku. Tapi kau tinggalkan.
C'était la deuxième chanson pop indonésienne. Vous aimez bien la chanson? Chers amis, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voines.id. Chers auditeurs, maintenant nous allons présenter le magazine culturel. Bonne écoute! Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour l'émission de magazine culturel. Je vais vous présenter Pantai Jelenga, de Nusa Tenggara Occidentale. Chers auditeurs, le 10 décembre 2023, le plus grand magazine de voyage au monde, Lonely Planet, a publié une liste des 11 plus belles plages d'Indonésie. Mark Johansson, un journaliste américain chevronné, a classé 3 plages de la province de Nusa Tenggara Occidentale parmi les meilleures d'Indonésie. L'une d'elles est la place de Jelenga dans le district de Jerewe, dans la région de Sumbawa occidentale. Selon Mark Johansson, il classe la plage de Jelenga comme l'une des plus belles plages car ses vagues sont de classe mondiale. Comme on le sait, cette plage située à seulement 40 km du port de Porto Tano possède le meilleur spot de gauche et convient parfaitement aux surfeurs professionnels et aux amateurs avancés. Chers auditeurs, la place de Jelenga est entourée d'un magnifique paysage vallonné. L'herbe verte et les arbres bas remplissent toute la colline. Du côté nord, la place de Jelenga offre une étendue de plages de sable blanc aux eaux turquoises calmes, très propice à la baignade, au kayak et au stand-up paddle. Cette plage convient également à ceux d'entre vous qui aiment le surf. La plage Jelenga est une plage ciblée par les surfeurs car elle présente des vagues difficiles. Les vagues sur cette plage viennent du milieu de l'océan. Ces vagues difficiles se forment parce que Sumbawa occidentale est entourée par la mer de Flores au nord, l'océan Indien au sud et le détroit d'Alas. Beaucoup de gens appellent la place de Jelenga un récif cicatricial, car les vagues ont la forme de gros tubes et mesurent plusieurs mètres de haut. Cherchez tard le soir venu, ne rentrez pas encore chez vous. Profitez de la beauté du coucher de soleil sur cette plage. Le dégradé des couleurs du ciel mélangé à l'eau de mer bleue claire ajoute à la beauté de cette plage. Les installations de la plage Jelenga sont assez complètes. Ici, il y a un parking, des stands, de nourriture, des toilettes et la location de matériel de surf et l'hébergement. Bon, chers auditeurs, c'est tout. Le magazine culturel.
kamu yang mengisi mimpi.
Kamu cuma kamu,
oh takkan takkan terganti.
Kamu cuma kamu,
ku tak akan berpaling ke lain hati.
Kamu
cuma kamu, kamu cuma kamu, cuma kamu satu di hati. Cuma kamu, ku takkan berpaling kasih.
Serge Littard, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Et comment? Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc l'Indonésie en couleur. Bonne écoute. Serge Littard, bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour l'émission de l'Indonésie en couleur, intitulée Chocolat Chalodo de Masamba. Avec moi, Audrey. Serge Littard, l'Indonésie, en plus d'être célèbre pour sa beauté naturelle, abrite également divers délices culinaires, notamment des produits chocolat de haute qualité. Une chose qui vaut la peine d'être essayée est le chocolat Chalodo de Masamba, une marque qui s'est imposée comme un représentant des délices chocolat locaux et qui a réussi à pénétrer la perte du marché mondial. Le chocolat Chalodo vient de Masamba, une ville de la région du nord de Luwu, dans le sud de Sulawesi, en Indonésie. L'un des principaux avantages du chocolat Chalodo est l'utilisation de matières premières locales de haute qualité. Le cacao utilisé est sélectionné sélectivement dans les plantations locales, créant ainsi une chaîne d'approvisionnement durable et soutenant les agriculteurs locaux. Cela donne également au chocolat Chalodo une touche distinctive difficile à égaler. Le gouvernement de la région de Luwu Nord encourage le développement de la production de chocolat Chalodo ou le chocolat typique de la région de Masamba afin que la production devienne plus mondiale. Le chocolat Chalodo est produit par le groupe commercial commun Sibali Reso dans le district de Masamba, dans la région de Luwu Nord. Ce groupe commercial commun produit du chocolat sous la marque Le Chocolat Chalodo. Le groupe d'entreprises transforme les fèves de cacao en aliments et en boissons. Chers amis, le président du Joint Business Group Sibali Reso, Baharudin Iskandar, a déclaré que toutes les matières premières provenaient des groupes d'agriculteurs du nord de Luwu. Chaque mois, 3 tonnes de fèves de cacao sont transformées en employant 20 ouvriers, membres du groupe. Baharudin espère qu'à l'avenir, ces produits chocolat pourront également être commercialisés dans différents aéroports. Mon cher Joëtard, c'est tout. L'Indonésie en couleur.
Comes and go without no surprise. No wonder you hate with no reason why. Just
gotta be stories that are passing by. There's no point digging all the lies that are just crunching someone's life. Now I'm a warrior, gotta hold my head up high. I'm a getting stronger, and nothing gonna break my stride. I gotta keep on moving, gotta be left to the punch. Hit me with your best shot, keep it coming. Now I'm a warrior, gotta hold my head up high. I'm a getting stronger, and nothing gonna break my stride. I gotta keep on moving, gotta be left to the punch. Hit me with your best shot, keep it coming, coming. Keep it coming. Keep it coming. Keep it coming. I'm a warrior.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français. Chers amis, c'était la chanson pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Sans retard, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonne écoute.
Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour le magazine musical. Et cette fois, nous vous présentons une chanson de Rotendao, Nusa Tenggara Oriental, intitulée Mali Falie. Chargeons tard dans cette édition de Pelangi Nada, la chanson de Nusa Tenggara Occidental, intitulée Mali Falie, qui signifie « Rentrons à la maison ». Cette chanson, écrite par M.A. Ndole, a des paroles et des mélodies simples, donc facile à mémoriser et à chanter. Mali Falie raconte l'histoire d'un enfant qui a quitté la maison pour jouer jusqu'au crépuscule. Son frère est venu le chercher en lui disant que sa mère lui avait demandé de rentrer immédiatement pour qu'il ne soit pas en retard. Bon chargeur tard, voici la chanson de Rotendao, Nusa Tenggara Oriental, intitulée Mali Falie. Bonne écoute.
My falie,
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter, @voiceindonesia, d'Instagram, @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook de Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube, Voice Indonesia. Et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.